vendredi 3 février de l'an de grâce 2012. Vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD sur les ondes du 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Un plaisir, évidemment, de vous retrouver ici dans le cadre de votre émission entièrement consacrée à l'univers de la bande dessinée, avec évidemment des incursions vers l'animation, vers le fanzine, l'illustration. Mais cette semaine, ce sera décidément bande dessinée qui sera à l'honneur, comme bien souvent d'ailleurs. Et notamment parce que l'organisme promo 9e art a un peu plus tôt cette semaine rendu public les nominations au 13e prix BDLIS, donc édition 2012. On récompense les volumes qui se sont tout particulièrement illustrés en 2011. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission puisque le vice-président de l'organisme, Laurent Boutin, sera avec nous pour nous présenter justement le processus qui a mené à ces nominations, mais également les albums qui ont été retenus et pourquoi ont-ils été retenus. Alors, plusieurs réponses à des questions, ma foi, fort pertinentes. Également, côté rencontre, on aura l'occasion de parler d'un album qui a été très, très bien reçu lors de sa sortie, des très, très bonnes critiques. Il s'est retrouvé d'ailleurs aussi dans la série de coups de cœur de certains collaborateurs en début d'année 2012. Il s'agit du premier tome de la série La Bête du Lac, intitulé Le Gardien. Et bien, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard aujourd'hui, puisque le dessinateur Patrick Boutin-Gagné sera avec nous pour nous présenter cet opus. Également, côté chronique, en fin d'émission, il y aura Michel Giguère qui sera de passage pour réfléchir avec nous sur les ficelles de la mise en scène en bande dessinée. Qu'est-ce qui fait qu'on embarque? Ce sera le sujet de la prochaine rencontre des rendez-vous de la bande dessinée qui aura lieu mercredi qui vient à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. On met comme à l'habitude la table avant cette rencontre et on amorce une réflexion. En fait, vous avez l'émission ou presque pour y penser en route vers l'intervention de Michel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on embarque en bande dessinée? Qu'est-ce qui fait qu'une mise en scène en BD est bien réussie? Mais par mise en scène, évidemment, on parle de ce langage qui amène les images vers les cases et qui rend les cases fluides entre elles, etc., etc. Alors, on en parle en fin d'émission. Je me garde du jus. Et également, tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter avec Stéphane Gravel, commentaire BD, lui, nous amène sur le terrain de Tillieu avec la série César. Alors voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez devenir adepte de l'émission via le site de socialisation Facebook. C'est La Vie en BD-CKRL89.1. Également, je vous invite à aller visiter le blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. Et d'ailleurs, toutes les émissions sont disponibles en version podcast. Alors voilà, trêve de tergiversation, on respire quelques instants en musique. Tiens, on va aller faire un petit tour pour la sélection musicale de cette semaine, un petit tour dans le passé avec la formation Les Jardiniers, alors, qui avait été fort populaire pendant un bon bout de temps, l'est encore, je crois également, du côté de la France, alors des albums instrumentaux qu'ils nous ont offerts. On va aller faire un petit tour du côté de leur sortie de 2008. On va écouter un petit extrait qui s'appelle « Poupée folle ».
Oh,
toujours à l'écoute de La Vie en BD et maintenant on se lance dans des regards sur des BD, sur des parutions récentes. Stéphane Gravel est avec nous au bout du fil. Bonjour.
Allô, allô.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Et Stéphane, en fait, j'ai envie de faire le pont entre ton sujet et une chronique qu'on a eue il y a quelques jours, quelques semaines ici à l'émission, Marco Duchesne, qui nous disait qu'il aimait particulièrement le mois de janvier-février parce que, ben, en France, il y a, pendant le temps des fêtes, des belles parutions qui arrivent, des intégrales, des éditions spéciales, des éditions presque collectionneurs. Et bien entendu, puisqu'ils sortent en Europe pour le temps des fêtes, ils arrivent avec quelques semaines, voire quelques mois de retard ici. Et j'ai l'impression que c'est le cas dans l'un des livres dont tu nous parles cette semaine, l'intégrale de César de Tillieu.
Absolument, absolument. Je pense que, bon, oui, ce sont des livres extraordinaires, là. Depuis, ils sont en train de repasser à travers leurs intégrales et d'en faire, honnêtement, de beaux livres. Il y a eu une édition ultérieure de César qui était paru il y a peut-être, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, peut-être, ça passe seulement vite, peut-être même 20, qui s'appelait Tout-Tilleux, qui rassemblait en partant les aventures de Gilles Jourdan pour ensuite finir avec deux tomes qui étaient consacrés à la bande dessinée humoristique qu'est César de ce dessinateur-là qui est Tilleux. Maintenant, dans la suite de toutes leurs intégrales, on a parlé de l'intégrale de Pauvre Lampil qui est parue il y a quelques mois, et maintenant c'est César, l'intégrale qui contient tout César en fin de compte, et puis c'est vraiment une BD extrêmement belle et extrêmement charmante. En partant, j'aime le papier. Ils réussissent à faire des albums qui sont beaux et qui reviennent un peu à ce qu'on pouvait voir à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de papier illustré, on a de plus en plus de bandes dessinées qui ont été rééditées du papier mort au papier illustré. Et puis là, avec les intégrales, ben on revient au papier mort. Et oui, c'était plus à la mode ça il y a quelques années, mais je trouve que toute la couleur prend son caractère sur ce papier-là. C'est très bien imprimé, c'est tellement beau.
Ça ajoute à la qualité d'objet dont on parlait et dont on parle de temps à autre autour de la BD. Il y a le récit, il y a le texte, mais il y a l'objet. Et il y a une nécessité d'avoir un bon rendu pour pousser au maximum la qualité graphique de ces volumes-là.
Ben écoute, c'est des gros volumes, là. Cet album-là est quand même... quand même quelques centimètres d'épais. Il y a l'équivalent de peut-être 4 ou 5 BD complètes à l'intérieur de tout ça. Il y a les reproductions des pages couvertures qui étaient parues dans le journal Spirou à l'époque. Il y a quelques dessins de Tilleux, les pages couvertures des albums, un petit dossier aussi au début qui raconte un peu qui est Tilleux, d'où il vient, comment il a commencé dans la bande dessinée en Belgique, comment César est arrivé dans le milieu de la bande dessinée aussi, à quelle année tout ça s'est passé. C'est pas jeune, là, Tilleux, là, les aventures de César ont commencé en 1957, quand on était inondé encore par les feuilletons américains dans les journaux comme Moustique qui ont précédé le journal Spirou. Et là, c'est toute une leçon d'histoire de la bande dessinée qu'on a avant de commencer à embarquer dans cette espèce de BD de chevet, je dirais, parce que c'est 400 pages de gags. César, ce sont des gags habituellement d'une page qui paraissaient dans le journal Spirou. Puis, on n'est pas obligé de se taper ça en ligne tout d'un coup, mais à côté de son lit, 3, 4 ou 5 petits gags de César, mais ça fait du bien. Et puis, je m'étais dit à un moment donné, j'ai le goût de parler des intégrales dans l'émission et j'ai le goût de revenir avec cette vieille bande dessinée-là. Puis en même temps, je voulais pas passer pour un nostalgique qui aime la vieille bande dessinée franco-belge traditionnelle. Mais
quand c'est bien fait, c'est bien fait, là.
Mais c'est ça, c'est une BD de qualité. Je pense que je pense que César est un incontournable et aussi est un incontournable méconnu. Et je lis César, puis j'ai l'impression que j'écoute un film de Jacques Tati. J'ai l'impression que j'ai mon oncle comme personnage devant moi. Il y a quelque chose d'intelligent, il y a quelque chose de fin. Il y a un dessin tilleux, un dessin qui est extraordinaire. C'est un maître de la bande dessinée. Il y a un découpage qui fonctionne tellement bien. Il raconte ses gags en une page avec une fluidité qui, ma foi, pour moi, est extraordinaire. Il y a une leçon de scénarisation dans cette BD-là. Et il y a aussi une leçon de trait à l'étirer. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Et c'est pas vieillot. Ben oui, des fois, les thèmes peuvent nous paraître un peu vieux. C'est sûr que on est dans les années 60, puis il y a plein de trucs qui ont changé au niveau de la société, mais c'est un peu comme écouter Mad Men aussi, hein. C'est un peu à la mode, là, de revenir dans les années 60. Ben là, on revient dans les années 60, mais pas avec un regard sur les années 60, c'est vraiment avec quelque chose qui a été fait dans les années 60 et quelque chose qui a pas vieilli. Il y a pas un cheveu gris là-dessus, là.
Alors ça, c'est l'intégrale César de Tillieu. Et Stéphane, on aurait peut-être un petit 3 minutes là, pour faire un autre clin d'œil, un livre de Dupuis Berberian qui est arrivé récemment.
Ça, c'est un clin d'œil de fou, mon cher. Un cadeau que je me suis offert qui est extraordinaire. Dupuis Berberian, Heart Book, tantôt, je t'en parlais, puis je disais carnet. Les Français ont toujours tendance à avoir un français impeccable, n'est-ce pas?
Toujours.
C'est chez la maison d'édition Chêne qui font habituellement de beaux livres, pas nécessairement souvent de la bande dessinée, mais je dirais même rarement de la bande dessinée. Mais là, dans ce livre-là, ils reprennent tous les livres qui ont été faits par Dupuis Berberian pendant qu'ils ont fait des voyages. Exemple, leur voyage à New York. Ce sont des trucs qui étaient parus parfois chez Cornelius, parfois chez l'association. Et c'était vraiment les carnets de voyage là, de le voyage. Là, ils les ont tous pris et les ont tous mis ensemble dans un beau gros livre, mais vraiment vraiment très beau là. Et puis on peut se promener avec les dessins de Dupuis Berberian un peu à travers le monde. Puis ils ont réussi à le faire c'est pas seulement que les dessins dans la page, mais souvent on voit la page du livre original dans cette page-là. Donc on l'a bâti un petit peu comme un livre d'art et on sent que la BD peut elle aussi prendre avoir une certaine forme d'art. Hein, comme on en parlait dans le livre Art ludique dont on a parlé avant les fêtes chez Sonacune, là, qui lui aussi, hein, on peut revenir sur l'idée du beau livre, là, qui est un très beau livre sur le dessin, l'illustration, la BD et tout ce qui vient dessous, ce que l'on voit, autrement dit, qui sont les auteurs derrière tout ça.
Et ça permet, en fait, s'il y a des gens qui participent à des débats, à savoir est-ce que la BD est un art visuel aussi? On a parlé dans certaines chroniques, justement, de galeries d'art qui exposent des planches de BD qui se spécialisent là-dedans. Alors, on voit qu'il y a des parallèles qui se font et de plus en plus, en fait, qu'on essaie aussi chez certains éditeurs, visiblement, de renforcer ces parallèles-là.
Écoute, c'est une suite consécutive de dessins, hein. Le dessin est une forme d'art. Une galerie du Louvre ne serait pas, quelque part, une immense bande dessinée par laquelle on voit un pan de notre histoire avec les multiples cases de tableaux sur les murs. Pourquoi pas?
Et d'ici là, ben, Dupuis Berberian, donc, Heart Book.
Peut-être libérateur au Louvre.
Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Puis on se dit à dans 2 semaines.
Oui, je pense que je vais retomber dans un intégral. Dans 2 semaines, je vais en trouver un autre.
on reste dans le spectre intégral.
Exactement.
Salut bien.
OK, ben, je vous salue tout le monde. Bye.
Voilà Stéphane Gravel avec ses commentaires bande dessinée. Et nous, on écoute un autre petit extrait des Jardiniers avec Space Girl. sinon, je le mentionnais en ouverture, une bande dessinée qui a plu à pas mal de lecteurs, en fait, qui est sortie en fin d'automne dernier, quelque part, je pense que c'était novembre, La Bête du Lac, une BD scénarisée par François Lapierre, dessinée par Patrick Boutin-Gagné, un premier tome, en fait, qui s'appelle Le Gardien, et on avait envie d'en parler un peu plus, avant, alors on a le plaisir d'être en compagnie du dessinateur Patrick Boutin-Gagné, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Mais ça va très bien, toi?
Oui, merci.
Et d'emblée, là, on peut placer l'univers de la Bête du Lac. J'ai l'impression que toi et François Lapierre, en fait, vous êtes amusés à jouer avec, d'un côté, des stéréotypes du terroir québécois, de l'autre, des éléments aussi d'une certaine mythologie québécoise ou amérindienne, là, si on peut dire.
Oui, oui. François, qui est le scénariste de la bande dessinée, aussi le coloriste, a toujours bien aimé de naviguer dans l'histoire des Amérindiens. On voit sa première bande dessinée qui s'appelait Sagana, du Soleil. Mm-hmm. Et puis par la bande dessinée qui vient de sortir aussi chez Glénat Québec, qui s'appelle Chronique Sauvage, qui est encore basée sur un univers amérindien.
Et c'est des univers qui sont quand même assez inspirants, j'imagine, autant côté scénario, autant côté dessin. Hein.
Oui, certainement, parce que bon, pour bien des gens, le Canada, c'est. Surtout quand on parle du Canada, les Amérindiens sont souvent la première image qui vient à l'esprit des gens par rapport à l'histoire, notre histoire, puis tout ça. Puis François a développé une bonne habileté à naviguer dans ce univers-là.
Et cet univers-là, qu'est-ce qui t'y a amené, justement? Qu'est-ce qui a mené à cette collaboration-là avec François Lapierre?
Ben, moi, François, on se connaît depuis peut-être 4-5 ans. Puis, on s'est toujours dit, parallèlement à nos trucs, on avait ça, certainement, essayé de travailler ensemble. Soit lui par le scénario, les couleurs, et moi par le dessin. Mais ça avait, on avait des trucs un peu différents, chacun de notre côté. Puis, à un certain moment, chez Hachette, il y avait un concours pour raconter les gens du Québec. Et puis, il m'a raccroché avec cette idée-là de la Bête du Lac, qui se passait dans son univers où ce qui était bien à l'aise. Puis, j'avais bien aimé ça parce que j'aime beaucoup un peu le côté fantasy. Tout ça. Je suis pas trop. Je suis pas à l'aise dans le dessin contemporain ou même un peu dans la science-fiction. Donc, l'univers m'intéressait beaucoup. Puis, en plus, je voulais vraiment tenter le terrain, de travailler avec François, avoir une expérience de travailler avec lui.
Et finalement, fait avoir la Bête du Lac, ça donne l'impression que vous l'êtes compatible.
Ben, merci, c'est bien gentil, mais on a une bonne chimie, si on peut dire. On a à peu près le même environnement, mais chacun deux enfants, mais chacun une petite vie pesée dans mon lieu, tout ça. Puis on vit à peu près les mêmes contraintes, les mêmes petites habitudes, là, puis les petits trains quotidiens. Puis vraiment souvent, on va s'appeler et on va parler 5 minutes de nos projets, puis 20-25 minutes, 30 minutes de nos familles respectives, de nos enfants, puis de nos petits
Et comment s'est fait justement le développement? Est-ce que c'est vraiment François qui s'est consacré au scénario ensuite qui vous l'a amené? Ou est-ce que quand même le développement de l'histoire, de la mythologie, de l'univers dans le fond qui est créé à travers cette BD-là, c'est quand même fait pas mal à quatre mains?
François s'est chargé de tout le côté scénario. Mm-hmm. Puis, j'ai pas amené grand-chose là-dessus. Des fois, je pourrais avoir une idée par rapport peut-être le chien Picou, en tout cas, dans l'histoire, ou des petits fleurs, des fois en dessinant, mais je dirais qu'à 95%, c'est tout ce qui est scénario, puis idée de l'univers, c'est François qui l'a amené. Je me suis vraiment chargé juste du design, puis du côté graphique, non pas des couleurs, mais du côté dessin, le trait, puis les designs des personnages. Mm-hmm. Et puis, autant ce qu'il m'écrivait, j'avais vraiment rien à dire, dans le sens que tout ce qu'il m'envoyait, ça me plaisait presque instantanément. Et puis, c'était pas vraiment la même chose côté dessin. C'était assez rare qu'il pouvait me dire, tel truc, ça fonctionne pas, ou tel truc fonctionne. Mm-hmm. On avait une bonne. Je le dis encore, on a une très bonne chimie de travailler ensemble. Puis, ça s'est bien fait. L'adaptation, son univers, pour mon dessin, c'est bien fait, vice versa.
Et vous avez choisi justement côté dessin, c'est vraiment c'est un trait qui est mince, c'est un trait qui est quand même anguleux aussi. Qu'est-ce qui fait justement que ce type de trait-là, pour vous, pour toi, ça se plaçait bien dans le cadre de l'univers, dans le cadre de l'univers de la Bête du Lac?
Honnêtement, je n'ai pas pensé à ça. Je savais que le style de dessin que j'avais à ce temps-là, qui était un style anguleux, je dirais peut-être même un peu argentin. J'ai beaucoup de références argentines aussi américaines, européennes, mais en ce temps-là, beaucoup argentines. Puis, j'ai pas essayé d'adapter mon style à l'univers. J'étais un peu comme je le sentais. Tant mieux, ça a bien été. Je veux dire, les
parce que l'univers était déjà adapté, dans le fond, à ton style. Ça allait de soi, puis tout simplement, dans le fond, il faut laisser parler l'instinct aussi, j'imagine.
Ben exactement. Je pense que c'est fait tout seul. Puis ça donne le résultat qu'on a vu dans Bête du Lac.
Oui, parce que dans le fond, il y a une assise qui est réaliste au dessin, à l'univers, mais en même temps, il y a un côté aussi qui laisse bien passer, j'ai l'impression, le côté humoristique, le côté parfois un peu, je dirais pas caricatural, mais un peu décalé peut-être des réactions des gens. Donc on est dans quelque chose de réaliste, mais on n'est pas dans l'hyper-réalisme non plus.
C'est un côté que j'aime beaucoup de François dans ses scénarios, où ça commence à être un peu trop, ben, je dirais pas trop sérieux, mais qu'il commence à avoir une tension, un petit drame, mais réussir à dédramatiser ça avec une blague ou juste des fois une scène simple, qui va comme faire un peu descendre la pression au bon moment, bien entendu, ça le fait au bon moment. Ça donne un petit style au scénario qui est, en tout cas moi, qui me plaît beaucoup.
Et comment s'est fait le développement côté études de personnages pour le monstre, justement, pour cette bête du lac?
À l'origine, ça avait été un super, j'étais dans la conférence du Québec. Puis dans ce temps-là, on avait, je travaillais à temps plein dans l'autre domaine, donc j'avais pas énormément de temps à mettre là-dessus. Fait que j'avais fait des recherches un peu sur la méthodologie, mais je suis parti un peu de rien. J'étais un peu à l'instinct. J'ai dessiné un monstre qui ressemblait un peu à un poisson, tout ça, mais on n'avait pas vraiment de base, à part la sirène, que tout le monde connaît un peu le concept d'une sirène, de la sirène avec la queue de poisson, mais pour le monstre, on sent que ça ressemble quand même à. Ça fait du sens, je veux dire, par rapport à une bête qui vit dans un lac, tout ça. Mais on n'a pas fait de recherche on n'a pas fait de grosses recherches pour ça.
Okay, donc c'est vraiment encore là, de se laisser un peu aller, de voir un peu ce qu'on a besoin côté expressivité, côté est-ce qu'on lui donne des bras, est-ce qu'on lui en donne pas, etc., etc.
Ben exact, c'est peut-être le côté intéressant de la fantaisie qu'on a peut-être un peu moins de limites à respecter.
Et en même temps, dans le premier tome, Le Gardien, il y a l'histoire qui avance, qui va à quelque part, mais en même temps, on sent que vous placez aussi l'univers de cette série-là. Je pense que c'est une trilogie, c'est censé être une trilogie.
Ben, les gens, ça fait assez à prévoir. Ben, moi, François, prévoir la fin en trois tomes. Là, c'est sûr que François a beaucoup d'idées pour le scénario de tome 2 et tome 3. Moi, j'ai quand même assez hâte de mettre au boulot là-dessus. Mais c'est sûr que parallèlement, après la Bête du Lac, moi, j'ai eu d'autres projets, notamment chez Soleil. François, quand même, beaucoup de boulot côté couleurs avec Régis Loiseau, notamment sur Magasin Montréal, La Cabre d'Oiseau du Temps, puis Le Grand Mort. Puis, maintenant, ce qui arrive, c'est que le facteur temps. Le facteur temps, pour mon cas, je peux faire peut-être une BD, deux BD par année. Puis, présentement, je suis à Sarajevo, je suis allé à Aragon. J'en ai pour un bon 7-8 mois. Par la suite, on va faire une autre bébé que je fais chez Sarajevo. Donc, le facteur de temps, des fois, ça fait que
les séries s'allongent ou se rapetissent.
C'est un peu le problème. Puis, quand t'es plus jeune, à un certain moment, tu prends ce qui passe aussi. Là.
Oui, donc, on n'a pas encore donné de calendrier précis pour l'éventuel tome 2.
Non, c'est ça. Pour le moment, on n'a pas encore donné.
Mais il y aura des réponses éventuellement aux questions qui sont soulevées dans le tome 1, parce qu'on veut savoir comment.
Du
succès, des ventes, etc. aussi. Enfin, il y a plusieurs facteurs. Là. Alors ça sera à suivre, mais d'ici là, donc on peut découvrir donc la Bête du Lac, Le Gardien, donc de François Lapierre et Patrice Boutin-Gagné. Et on aura peut-être l'occasion aussi, nous, de se reparler, puisque cette série Chez Soleil, dont a fait mention Brogoun, si je le prononce bien, qui arrive en Europe en quelque part fin février, donc on la verra arriver quelques semaines, quelques mois plus tard, ici au Québec. Là.
Oui, oui.
Voilà. Mais Patrice Boutin-Gagné, merci beaucoup.
Merci à vous. Bonjour à tout le monde,
à
tous les gens du Québec.
Mais merci.
OK.
Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà donc Patrick Boutin-Gagné, qui, je le rappelle, est le dessinateur de La Bête du Lac, Le Gardien. C'est une bande dessinée qu'on retrouve chez Glénat Québec. On prend une courte pause encore à venir, Michel Giguère, et on parle BD-Lis avec Laurent Boutin.
Travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture Formation et Consultation Incorporée offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com.
Premier acte et le collectif En attendant présente En attendant Gaudreau, précédé de Tailleul Kathleen. Confiné dans son 2,5, Lynn, la monoparentale, n'en peut plus d'entendre pleurer Kathleen, le bébé, et cherche à sortir de chez elle. Tout près, William le junkie, Monique l'amoureuse enfermée, et Dédé, le petit de la construction, attendent Gaudreau, qui n'arrivera jamais. Du 31 janvier au 11 février, au théâtre Premier Acte. Billets en vente sur le réseau Billettech au 643-8131. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège, de l'Intermarché Saint-Roch. Information, premieracte.ca.
Programmation, écoute en direct. Actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1.
Funk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Durillo et Lou Bendy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite. C'est quand même...
Pré est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 88 529 3829.
Toujours l'antenne de CKRL, la vie en BD qui se poursuit jusqu'à 18h30. Raymond Poirier toujours avec vous. Et je vous rappelle, pour plus d'informations sur l'émission, ben, lavieenbd.wordpress.com. Et ben, tranquillement, on se prépare aussi au retour sur l'année dernière, au retour sur 2011. Et il y a différents prix consacrés à la sphère BD qui sont donnés au Québec. Et notamment, ben, un peu plus tôt cette semaine, on a eu l'occasion de voir passer là, les nominations au prix BDLIS 2011 qui ont été dévoilées par l'équipe de l'organisme promo 9e art. Alors, c'est des prix qui seront remis en avril prochain, mais... On a les nominés et on veut savoir quels sont-ils et surtout pourquoi ceux-là. Alors, pour en discuter avec nous, on est en compagnie de Vincent Boutin, qui est justement de l'organisme Promo 9e art, qui a participé également à certains des jurys. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Laurent, juste en passant.
Laurent, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu,
c'est du Vincent.
Ah, bon. Alors, Laurent Boutin, bonjour officiellement.
Bonjour Raymond.
Alors, peut-être un peu d'histoire d'abord. En fait, c'est la 13e édition des prix BDLIS qui va avoir lieu cette année. Qu'est-ce qui avait amené en 99 Promo 9e art à décider de mettre en place là, ces récompenses-là?
Moi, je t'avoue que je n'étais pas déjà là, mais je pense que ce qui à la base a amené la création du prix BDLIS et de l'organisme Promo 9e art en général, c'était que il n'y avait rien du genre qui existait. Absolument rien de reconnaissance, jamais de reconnaissance dans les médias. Donc, c'est un peu créer une machine pour commencer à faire parler de tout ça. Là.
Oui, enfin, essayer de se donner des vitrines pour reconnaître ce qui se faisait ici, parce qu'il y avait aussi, et j'imagine, on le voit de plus en plus, il y a de la bonne BD qui se fait au Québec. Là.
Ben oui, effectivement, je pense que ça serait une erreur de passer tout ça sous silence, tout ce travail-là.
Et côté nomination, il y a différents prix, bien entendu. Donc, pour Québec, pour indépendant, c'est pressé des BD québécoises. Mm-hmm. Et il y a aussi des reconnaissances qui sont données aux BD jeunesse, aux BD internationales.
Exact.
Et c'est quoi un peu, peut-être, avant de se lancer dans ce qui est nominé cette année, c'est quoi un peu les critères, les guides, les pistes de réflexion qu'on se donne quand on est dans le jury, justement, qui va faire ces sélections-là?
Il n'y a pas de règle universelle, en fait, parce que lire la BD, lire un livre, c'est tellement subjectif à la base. C'est sûr qu'on choses, même si c'est pas nécessairement leur goût personnel et tout. Il n'y a pas un critère de base, mais c'est ça. Bon, évidemment, il y a les critères, je te dirais, qui sont pas venus du cœur, là. Genre, il faut que ça soit un livre paru en 2011, évidemment. Il faut que ça soit publié par une maison d'édition québécoise, ce genre de choses-là. Mais sinon, on y va, on essaie de se constituer le jury le plus crédible possible, puis tout le monde y va plus ou moins au feeling.
Donc, ce qui fait en fait que les Québécois qui produisent en Europe peuvent être nominés pour l'international, mais ça reste donc vraiment consacré aux BD publiés par, je le rappelle, donc une édition de BD ici au Québec. Là.
Exact. Voilà. En fait, ça a changé ça souvent au cours des années. En fait, le prix BDListe Québec, auparavant, il y avait une règle qui disait que deux des trois critères devaient être québécois sur le dessinateur, le scénariste et l'éditeur. Donc, si deux de ces trois éléments-là étaient québécois, ils étaient éligibles au prix BDListe Québec, mais là, ça donnait lieu à toutes sortes de problèmes, en fait. Est-ce que Régis Loisel est québécois plus qu'il reste ici depuis comme des années? Est-ce que Guy Delisle est encore québécois plus qu'il ne reste plus ici depuis des années? Et tout, fait que, bon, il y avait plein de questions logistiques assez complexes comme ça, fait qu'on s'est mis d'accord il y a quelques années sur si la maison d'édition, et tant pis, si le livre nominé n'est pas par un Québécois, on récompense l'édition au Québec.
Voilà. Et pour le BDListe Québec, justement, Laurent Boutin, il y a cinq albums qui ont été choisis, qui ont été sélectionnés, qui ont été nommés comme finalistes. J'aimerais qu'on les passe en revue et voir un peu, du côté du jury, un peu c'est quoi les éléments qui a fait peut-être allumer vos jurys, justement, pour amener ces sélections-là. Alors, on peut se lancer peut-être avec, justement, les cinq nominés côté BDListe Québec.
Oui, eh bien, le premier, en fait, on dit premier, mais c'est pas l'ordre alphabétique, hein. C'est Chronique sauvage de François Lapierre, qui est paru en début d'année passée, que le jury a retenu parce que c'est un excellent album. On y a tous de l'univers de François Lapierre, je pense, depuis la disparition de Sagana. Je pense qu'on a tous été super contents de retrouver cet univers-là, son dessin, ses couleurs, son bel univers bien monté.
Qui nous entraîne en Nouvelle-France, qui est aussi pas très exploité, à mon sens, côté BD, là, comme période.
Ben, pas aussi bien exploité, en fait. Il y a plusieurs séries, là, bas de gamme historique, je dirais, là, mais je suis content qu'il y ait des gens d'ici qui reprennent, notamment François puis Jean-Sébastien Bérubé, qui reprennent le flambeau puis redonnent des lettres de noblesse à la BD de Trappeur.
Et parallèlement, un auteur de Québec, Fred Jourdain, Robert Lepage, Marie Michaud, aux éditions Alto, Le Dragon Bleu?
Oui. En fait, je pense que ce qui a retenu le plus l'attention du jury cette fois-là, c'est surtout l'objet en tant que tel, notamment les dessins de Fred Jourdain. Puis l'attention portée au bouquin, c'est vraiment un beau bouquin, il est fun à tenir, il est super beau, c'est vraiment un beau travail d'adaptation aussi. Et je pense que c'est ça qui a fait flasher le jury.
Et les gens, effectivement, côté graphique, ont eu l'occasion de voir Fred Jourdain qui a fait pas mal circuler certaines de ses planches, justement, dans des expositions. Et il y a un travail de détail qui est hallucinant là-dedans, comme vous dites. Là.
Ah oui, ben c'est je suis content qu'il sorte enfin une bande dessinée. Ça fait longtemps qu'on voit ses travaux, mais c'est le fun d'en avoir en livre.
Et parallèlement, côté livre, quand j'ai vu Jean-Paul Hyde, Le fond du trou, je me suis dit, ce qui a dû accrocher, c'est l'objet en soi, c'est le concept de cette BD-là.
Bien, je pense qu'à la base, c'est sûr qu'il y a le concept, mais ça aurait été que ça, je pense pas qu'il aurait été finaliste. C'est le fait qu'il ait réussi à amener son concept jusqu'au bout et d'en monter tout un album, toute une histoire, sans qu'on s'ennuie jamais. À l'entour de ce trou-là, c'est vraiment un coup de maître. Parce que des fois, bon, les concepts, c'est le fun, deux minutes, mais on fait le tour assez vite. Mais il a vraiment mis de la substance autour de son trou, ce qui était, puis on fait un album super intéressant, puis super drôle.
Et parallèlement, vous avez été vers le blog avec Michel Hellman chez Papa Mile Hand.
Oui, mais je pense qu'il a accroché un petit peu tout le jury, ce petit album-là. C'est très frais, très rafraîchissant, très charmant. C'est sûr que, bon, on commence à avoir l'habitude un peu de voir la petite chronique autobiographique, mais celle-là, il y avait des petites dérivations et des petits clins d'œil qui ont bien charmé tout le jury.
Oui, en fait, comme vous dites, c'est ça devient un genre qui est de plus en plus difficile à bien faire, à bien renouveler aussi, ou à bien reproduire, parce qu'il y en a tellement. Là, que...
Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est dans le cas de Michel. personnellement, c'est les libertés qu'il a prises avec l'autobiographie. On sent des moments où il y a des dérapes et que ça ne devient plus d'autobiographie, mais je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est l'espèce de... C'est plus l'ambiance que vraiment le souci de l'anecdote qui fait son charme.
Et vous avez aussi choisi de reconnaître, puisqu'on parle d'autobiographie, Paul au parc de Rabagliati.
Oui, ben c'est un peu inévitable, en fait. Je sais, ça peut avoir l'air redondant dans les prix BDistes que Michel Rabagliati soit dans les nominés, mais en même temps, la lecture, c'est difficile de faire autrement. C'est vraiment un maître de son récit, de la composition, de la narration, de son dessin. On n'a pas le choix.
Effectivement. Et en fait, c'était d'ailleurs, en fait, plusieurs de ces albums-là s'étaient retrouvés aussi dans les coups de cœur, justement, de nos collaborateurs ici à l'émission. Donc, on voit que c'est une belle sélection de trucs qu'on peut trouver, d'ailleurs, assez facilement en librairie. Si les gens veulent se préparer un peu comme, bon, pour des galas comme les Oscars, on aime bien voir les films, mais pourquoi pas lire les BD en route vers les BD-listes. Surtout que, donc, ces cinq-là sont, donc, je le rappelle, extrêmement faciles à trouver en librairie. Parallèlement, peut-être un peu plus difficile à retracer en librairie. Il faut tomber peut-être plus dans des librairies spécialisées ou sur le web. Il y a les BD-listes indépendants, donc 5 titres qui ont été reconnus, qui ont été placés comme finalistes. Alors, ça, je vous laisserai peut-être vous lancer. Je les connais moins que les cinq BD-listes Québec. Donc, quels sont-ils et pourquoi devrait-on y jeter un coup d'œil, là?
En fait, c'est ça le truc avec les BD-listes indépendants. C'est pour ça que le prix existe, c'est que les livres ne sont pas distribués ou sinon ils le sont artisanalement, on va dire. Donc, ils sont donc plus difficiles à trouver, mais ça vaut la peine de s'y intéresser quand même. D'ailleurs, on a changé le prix. Le prix s'appelait le BD-list Fanzine. On a changé le nom pour le BD-list indépendant. Okay. Parce que tout ce qu'on savait, ça s'approchait de moins en moins du Fanzine. En fait, on a affaire à du travail très pro, juste à moins large diffusion. Donc, ça commence avec le bestiaire des fruits de Zvian, qui était parti à la base sur son blog. Je pense qu'on a pu présenter Zvian, mais celui-là est un album plus conceptuel, en fait, où Zvian testait des fruits exotiques pour le bien de ses lecteurs. Donc, elle allait à l'épicerie ramasser un fruit qu'elle n'avait jamais goûté et lui donnait une note, comme 10 points pour le look, 10 points pour le goût, 10 points pour si on peut le manger proprement, ce genre de choses-là. Ça donne des situations très cocasses, très rigolotes, puis en même temps, on apprend plein de choses sur des animaux qu'on ne connaît pas tellement.
Et sinon, il y a Boumouri de Samantha Le Riche Gionnet.
Oui, ça a été un petit coup de cœur. Encore là, on a affaire à de l'autobiographie, cette fois-là sous forme de strip. C'est son premier album à Samantha Le Riche Gionnet, à publier sous le nom de Boum. En fait, c'est des petites anecdotes, des petites histoires, elle raconte ses rêves, mais elle a vraiment un sens de la narration et du punch que j'ai rarement vu dans un premier album. C'est vraiment une super belle surprise. Elle a un dessin très élégant, très bien foutu. Puis, franchement, sa narration puis son sens du punch est vraiment top-notch.
Deux titres aussi chez Colosse, Comme les grands de Sophie Bédard et Pinkerton de François Sanson Dunlop et Alexandre Fontaine-Rousseau.
Oui, c'est deux titres chez Colosse, mais c'est deux titres assez différents. En fait, dans Comme les grands, c'est une petite fable, c'est trois jeunes dans la forêt qu'on comprend qu'ils ont fait une fugue. Et ça fait peut-être quoi, une journée ou deux, sont déjà en train de pas s'entendre sur plusieurs points. Et ça va donner lieu à une petite fable sur bon la puberté ou puis un peu malsaine par les bords. Ça ressemble beaucoup au roman Sa Majesté des Mouches, en fait, l'histoire classique, là, les jeunes perdus dans la forêt, laissés eux-mêmes.
Oui, oui.
Et Pinkerton, qui est mon livre préféré, en fait, de toute cette sélection, c'est une fable. En fait, Pinkerton est un disque de Weezer sorti dans les années 90, mais dans ce livre, il représente la rupture amoureuse du personnage principal, donc il va essayer de passer par-dessus sa rupture amoureuse en passant par-dessus le disque Pinkerton, qui est comme pour lui un élan d'amour adolescent qui doit rayer de sa vie. Et donc, ça va donner lieu à beaucoup d'analyses et beaucoup de psychologie, de pop culture. C'est vraiment un album très, très riche, mais c'est vraiment super bien fait. Les dialogues sont vraiment savoureux.
Et en terminant, 20 secondes pour 3 secondes plus vite de Caton, qui est le dernier titre là, pour les BD-listes indépendants.
Oui, ben c'est un tout petit livre, c'est très court et c'est un recueil d'histoires courtes, mais c'est vraiment une auteure qui a une toute nouvelle forme d'humour un peu plus absurde, un peu plus, je dirais, mignon, mais elle a vraiment une forme d'humour vers elle. Je pense que c'est surtout ça qui a séduit le jury, c'est cette nouvelle personnalité-là qui ressemble à absolument rien de ce qu'on a vu avant. C'était vraiment une belle petite surprise pour tout le monde.
Alors, ben, en fait, on peut les retracer via le web et les nominés, les finalistes sont sur promo9e-art.org, sont aussi sur le blog de La Vie en BD, donc on peut les trouver facilement. Il y a aussi les listes préliminaires pour BDLIS Monde et BDLIS Jeunesse.
Oui.
Alors, ben, Laurent Boutin, merci beaucoup. Et on aura peut-être l'occasion de se reparler après le 4 avril prochain, alors que le gala BDLIS va être présenté à l'Auditorium de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec avec vos porte-paroles Sylvie Lucier et Pierre Poirier. Donc, on se dit à bientôt.
À bientôt, donc.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Au revoir.
Salut.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et c'est l'heure, et c'est la semaine également, dans laquelle on a le plaisir de retrouver notre collaborateur Michel Giguère. Bonjour.
Salut Raymond.
Alors Michel, en fait, il faut dire, tu te prépares tranquillement à aller faire un tour du côté de Bordeaux, un gros festival de bande dessinée qui se prépare là-bas.
Je vois que, en tout cas, ton choix d'adverbe, c'est la seule chose de ta phrase qui est moins juste. Là. Tranquillement, c'est la course contre la montre, mais quel beau projet. Alors, aujourd'hui même, il y a Philippe Girard, Francis Dernais, Pierre Bouchard et Jean-François Bergeron qui sont arrivés au Festival Bord d'Images à Bordeaux, qui se déroulera pendant les deux prochaines semaines. Et il se trouve que ça coïncide avec les 50 ans du jumelage Québec-Bordeaux et les 5 ans de la résidence de BDistes Québec-Bordeaux. Donc, ça, c'est 4 des 5 qui sont allés séjourner à Bordeaux. Et moi, ben, à chaque fois, je reçois les BDistes bordelais qui viennent chez nous au printemps au rendez-vous de la BD. Et on m'a invité à aller faire ce que je fais ici. Donc, je vais aller animer des rencontres d'auteurs et par ailleurs faire une conférence sur la BD québécoise.
Alors, ça va être intéressant justement de changer un peu de zone de présentation, de sortir un peu du milieu BDS de Québec, d'aller exporter. On exporte nos BDistes, mais on exporte aussi nos experts en BD, si on veut dire.
Les médiateurs, comme on dit dans le milieu, oui.
Ça va être intéressant et on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler un peu plus en détail, Michel, puisqu'on va tenter de se donner l'occasion aussi de revenir ensemble sur cette expérience-là, mais également de revenir avec certains des BDistes participants là, au retour à quelque part au début du mois de mars.
Ça serait génial.
Et d'ici là, Michel, on va se lancer un peu sur le sujet de la chronique de cette semaine. On parle souvent, en fait, dans les entrevues qu'on mène de découpage, de côté cinématographique de la bande dessinée. C'est des éléments qui reviennent, comme je le disais, dans les critiques, dans les commentaires, dans les entrevues. On peut parler ici presque d'une mise en scène, en fond, mais au théâtre, c'est peut-être un peu plus évident. Au cinéma, c'est peut-être un peu plus évident. Et on va essayer de réfléchir et de regarder quelles sont les ficelles, dans le fond, de la mise en scène en bande dessinée, parce qu'il y a une mise en scène dans la bande dessinée.
Bien, c'est le thème de la rencontre de mercredi prochain. Et c'est un défi, j'en suis conscient, parce que c'est quelque chose d'assez technique. Mais c'est précisément ce qui fait que la bande dessinée me passionne, un des aspects, entre autres. Et c'est ce qui fait aussi, comme le titre de l'activité l'indique, pourquoi on embarque. C'est ce qui fait que les lecteurs embarquent. Sauf que, comme les cinéphiles, comme les lecteurs, c'est pas tout le monde qui a la déformation professionnelle d'analyser pour voir en coulisses comment travaille le marionnettiste, mais c'est ce qu'on va voir nous autres.
Et je fais une petite parenthèse, on a fait référence à la rencontre, il s'agit en fait du prochain rendez-vous de la bande dessinée de Québec, ça c'est mercredi prochain, 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, activité gratuite, où justement on va explorer ça avec toi, et comme d'habitude, je le spécifie à chaque fois, on en profite pour mettre la table, et justement, comment ça s'exprime un peu, comment on découpe, dans le fond, comment on travaille une scène, comment on crée cette mise en scène.
Bien, il faut dire qu'évidemment, pour la création, la réalisation d'une page de bande dessinée, il y a plusieurs étapes. Et une des plus méconnues est en fait la plus importante. Et dans le jargon du métier, on l'appelle le découpage. Il y a le terme Il y a le terme storyboard qui s'impose de plus en plus du côté français. Puis c'est malheureux parce que c'est un terme qui est utilisé en cinéma. Et le storyboard en cinéma est un outil distinct du découpage en BD, mais peu importe. Et le découpage, c'est assez complexe. Puis en même temps, c'est passionnant parce que ça a l'air de rien, ça ne paye pas de mine quand on en voit un. C'est une feuille où est-ce que la feuille est séparée, est divisée en cases avec des gribouillis à peu près incompréhensibles des gens autres que celui ou celle qui les a dessinés. Et c'est donc des dessins sommairement esquissés, mais pourtant toute la mise en image de l'histoire est là. Et si on compare, tu parlais du cinéma tout à l'heure, il y a un exercice, peut-être pour que les auditeurs comprennent bien, que je faisais faire dans, mais que je fais encore faire dans mes sessions de cours, c'est-à-dire que je projette une scène d'un film à répétition, même j'enlève le son. Et à un moment donné, je demande aux gens dans le groupe de me demander, de m'indiquer quand faire des arrêts sur image. Et ensemble, on s'entend sur un choix de 6, 8, 10 arrêts sur image. Et là, on a choisi les images les plus narratives, celles qui résument le mieux la séquence et toutes les actions présentées dans la séquence. Et puis, je leur demande de les redessiner après coup. Mais là, on a comme choisi un photogramme. Si on avait une pellicule de film, ce serait une image parmi 24 qui déroule à chaque seconde. En bande dessinée, on ne peut pas garder ce photogramme-là comme ça. Il faut que nous, on ait une image qui soit parfaite. D'abord, c'est une image, une case de bande dessinée. Ça ne dure pas une fraction de seconde. C'est extensible. Tu sais, dans le temps, là, ça peut s'étirer. S'il y a une longue bulle avec beaucoup de texte, donc on présume, le lecteur présume que ça dure plusieurs minutes, là, comme ma réponse d'ailleurs. Et donc, il faut que cette image-là soit parfaite parce qu'en somme, on va avoir conservé très peu d'images comparées à un film. Quand on lit une bande dessinée, toute une histoire nous est racontée, finalement, en très peu d'images. Il faut que ces images-là soient d'une clarté et il faut qu'elles soient pleines d'informations, pleines d'émotions, très claires, très nettes, parce qu'on demande au lecteur de faire des sauts dans le temps importants. D'une case à l'autre, il doit reconstituer tout ce qui s'est passé dans l'image. Et donc, la façon qu'on va organiser l'action, la scène, dans la case en question, c'est ce qu'on appelle la mise en scène. C'est comment on l'aménage, comment on l'organise, cette image-là, où on va placer les bulles. Les personnages vont circuler de quel bord à quel bord de la case. Quels éléments de décor sont nécessaires? Qu'est-ce qui est superflu? Et puis surtout, quel cadrage, quel point de vue, quel angle de vue, quelle profondeur de champ on va privilégier? Et là, on rejoint un peu le vocabulaire du cinéma, mais il y a un tas de procédés de ce genre-là qui ont été utilisés d'abord en BD. Donc, la BD n'imite pas le cinéma. C'est juste deux médiums de narration par l'image qui utilisent les mêmes procédés.
Et au bout du compte, c'est ces choix de cadrage-là, c'est cette mise en case-là, comme tu le dis, Michel Giguère, qui va amener, dans le fond, une lecture fluide, qui va créer un rythme à la scène, qui va créer une dynamique, que ce soit très rapide, que ce soit très lent, et ce qui permet aussi à nous, qui parlons de BD, bien, d'utiliser un vocabulaire qui est souvent apparenté au cinéma, au bout du compte.
Ce dont on est en train de parler, et dont il va être question mercredi prochain, c'est ce qui fait que les lecteurs ne s'en occupent pas. C'est ce qui fait que quand on va voir un film, on oublie que quelqu'un l'a réalisé, on se prend au jeu de suivre le destin de personnages auxquels on croit. Et en bande dessinée, la fluidité est importante parce que c'est une série d'arrêts sur image avec des ellipses, des sauts dans le temps très importants entre chaque image. Et ma foi, tous les procédés dont je viens de parler, c'est abstrait, mais quand on les voit sur écran, comme ça va être le cas mercredi, on va voir un tas d'exemples tirés de bandes dessinées qui nous sont parfois familières. Et puis, je vais, pour cette soirée-là, me contenter de rester dans de la bande dessinée narrative. Il n'y aura pas beaucoup de trucs éclatés, poétiques. Mais donc, les gens sont familiers avec ça. Et je pense que les gens vont sourire et s'ouvrir grand les yeux en se disant « Ah, ouais, c'est vrai. »
C'est pour ça que je m'identifie à tel personnage. Ouais. C'est pour ça que j'embarque dans l'histoire. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de impliqué dans ce récit-là, au bout du compte.
Et que je reconstitue tout ce qui se passe entre chaque case sans effort, mm-hmm. parce que les efforts ont été fournis par les créateurs qui ont raconté l'histoire et qui ont réfléchi, qui se sont mis à la place du lecteur pour que justement chaque passage d'une case à l'autre se fasse de façon tout à fait fluide, qui est vraiment le mot.
Et je mentionnais implication face à un personnage, mais c'est aussi la mise en scène qui va déterminer qui est le héros, quel type de héros on a. J'imagine aussi, est-ce que c'est un héros comique, est-ce que c'est un héros tragique, voilà, etc. Donc, comment un peu on joue entre les genres et entre les personnages qui peuplent ces cases-là?
Oui, puis là, parlant de personnages, on parle d'émotions. Jusqu'ici, on n'en a pas fait mention tellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se ronger les ongles, s'inquiéter pour un personnage, se taper sur les cuisses? Il y a une photo de moi que j'adore, où je suis en train de lire un album de BD, et j'éclate de rire. Puis je me fais prendre en photo sur le moment. Et c'est étrange de voir quelqu'un avec un livre devant lui, tout seul, puis qui rit de bon cœur, mais on est complètement parti. Alors, les procédés, ça peut être aussi simple que, par exemple, ce qu'on appelle le plan subjectif de voir à travers les yeux d'un personnage, ou simplement de poser l'angle de vue très bas si la personne est basse, ou si on veut dramatiser une scène. Normalement, quand le plan de vue est très bas, ça ajoute une espèce de dose dramatique. Même chose, Hitchcock le savait très bien, Kubrick a usé de ça abondamment, la profondeur de champ. Curieusement, quand il se passe des choses à l'avant-plan et des choses à l'arrière-plan en même temps, puis qu'on joue sur cette profondeur-là, ça, il y a une tension dramatique qui monte un petit peu naturellement. Et ça, c'est de l'alchimie. Ça ne s'explique pas. Ça fonctionne pour des raisons obscures et merveilleuses, dans le fond.
Et en même temps, on joue de plus en plus, on voit les BDistes jouer de plus en plus avec la grosseur des cases aussi, avec des suites de petites cases, des longues cases, le choix de mettre une pleine page, de diviser en quatre, etc. Ça, j'imagine, ça rentre aussi dans des notions de mise en scène.
Et dans le même temps qu'on étire l'élasticité des cases au maximum dans un sens comme dans l'autre, et on va voir des exemples de ça aussi, dans le même temps, il y a toute une école de pensée et beaucoup de créateurs qui refuse d'utiliser ce genre de procédé-là de mise en page très éclatée et très originale, et qui s'en tiennent à des petites cases toutes sagement alignées. D'aucuns vont appeler ça le gaufrier quand ce sont des cases qui sont parfaitement symétriques, là. Et eux, vraiment, ils veulent que ce soit tout dans la mise en scène et le moins possible dans la mise en page éclatée, tu vois. Donc, que rien dans la mise en page ne fasse interférence pour que le lecteur tourne la page en disant « Waouh, ça flash ». Non, il n'y a rien qui flash. Tu vas d'une case à l'autre et dans la page en tant que telle, il n'y a rien qui attire l'attention particulièrement. Par contre, on va aller chercher tes yeux pour les promener d'une case à l'autre et pour tout mettre dans la narration, la clarté narrative pour qu'on embarque dans l'histoire.
Et ça, c'est un travail, j'imagine, en amont, il faut que le créateur s'installe et se demande, bon, qu'est-ce que je veux faire avec ma BD, quelle émotion je veux faire transparaître, etc., etc. C'est vraiment, il y a une bonne réflexion pour que la mise en scène soit réussie, pour que la narration se tienne, soit efficace, soit cohérente.
Oui, les gens qui vont être assis dans la salle dans quelques jours, pour la plupart, sont des lecteurs. Par contre, quand j'explique les mêmes notions à des gens qui veulent en faire de la bande dessinée, c'est vertigineux parce que tout ce dont tu viens de parler, c'est toujours une question de choix. Donc, tout se peut, tout est possible, il faut choisir. Imagine seulement la case, chaque case. Il y a un cadrage, il y a un angle de vue, tout ça. Et si je filme ou que je prends des photos, je fais aussi un cadrage. Mais là, je me promène avec l'œil dans le viseur et je vais capter toute une suite d'images, de cadrages différents. Et je vais faire mon choix après coup. Mais le dessinateur de bande dessinée, ou si ce n'est pas le dessinateur, ça peut être le scénariste qui fait le découpage et qui décide ça, lui, il est devant une page blanche. Il doit se figurer le lieu, la pièce, ou le trottoir. Il doit, sur des feuilles à côté, griffonner un tas d'images qui sont ses captures à lui, d'images qui sont son magasinage, si tu veux. Il va le dessiner sous différents angles avant de choisir lequel lui paraît le meilleur, mais à partir d'une page blanche, c'est quelque chose.
Et en même temps, on a parlé d'émotion, on a parlé d'efficacité, de rythme, il y a toutes les notions d'ambiance aussi, la chaleur, ouais, le froid, la musicalité de la scène, etc.
Alors, ouais, tu touches un point essentiel qui est beaucoup moins technique, mais tellement important. Parfois, j'essaie de faire penser aux gens dans mon cours, ça te tenterait pas que ça se passe le soir, ça te tenterait pas qu'il fasse froid dans la scène, puis que tu sentes par la gestuelle du personnage qu'il fait vraiment froid. Bon, le grand classique, l'orage électrique dans une scène stressante ou de thriller, ou le brouillard pour masquer les silhouettes, tout ça, bon, c'est un peu facile, mais c'est imparable, ça marche toujours bien. Mais peu importe, ce côté-là, atmosphère, ça fait partie aussi de la mise en scène, effectivement.
Alors, plusieurs éléments à garder en tête, peut-être quand on lira ou quand on feuilletera des BD en route vers la rencontre donc de mercredi prochain dans le cadre des rendez-vous de la BD. Et Michel, en terminant, est-ce que justement on aurait peut-être un ou deux auteurs à proposer aux auditeurs, auditrices, si on cherche des bons metteurs en scène, là, certains qui viennent à l'esprit, là, je te demande ça point pour point comme
absolument.
Ça.
Écoute, il y a Herman qui fait des personnages qui sont souvent laids, mais qui maîtrise totalement son médium. Et vite comme ça, la série Jérôme Bloch, parce que c'est d'une grande clarté, c'est une bande dessinée qui est assez conventionnelle, mais c'est un véritable cours de narration en soi. Tous les procédés que je puisse imaginer pour bien raconter en BD sont utilisés d'une façon presque invisible et très efficace dans la série Jérôme Bloch.
Ah ben voilà, quelques idées de lecture en route, donc je le rappelle, mercredi prochain, vers ces rendez-vous de la BD, un atelier qui va, une présentation qui va s'appeler « Pourquoi on embarque les ficelles de la mise en scène ». C'est gratuit, c'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et Michel, bon, on te souhaite donc une bonne présentation et un bon voyage également.
Oui.
Un bon tirage.
Je vous reviens en civière.
On se dit à très bientôt. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, un spécial Angoulême 2012. On aura l'occasion d'avoir avec nous notre collaborateur Thomas-Louis Côté, qui a été à Angoulême. Très belle expérience de son côté. On va revenir là-dessus. Également, on aura quelques invités aussi qui seront de passage pour revenir sur leur passage là-bas, notamment Michel Rabagliati, Zuliane et Jean-Sébastien Bégubé. Alors, c'est rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, c'est un plaisir d'être avec vous ce vendredi. C'était Raymond Poirier au micro, et dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui prend la reprise.